Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs.
Vous écoutez pour la première fois...
L'instant VIP.
Ça ose.
Ce merdier va vite nous dépasser.
Bienvenue sur...
Auto Radio.
Et je compte sur vous pour le compte en bourre vers l'extase.
C'est de la bombe, bébé. L'instant VIP.
Et bonjour à tous, bienvenue dans l'instant VIP, comme le disait ce petit bébé là tout à l'heure. Nous sommes bien sur Eau de Radio 91.3, la radio des Hautes-Garonne, et nous entamons donc notre troisième épisode avec Frédéric Renoux.
Bonsoir Lily, bonsoir Aymeric, bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutent.
Oh, on sent qu'il est à l'aise là. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui vient de nous interpréter On ira de Jean-Jacques Goldman. Comme musique introductive.
Ça y est, j'ai apporté mon piano, comme promis.
Ouais, on est trop contents.
Donc, avant que j'oublie, je passe un gros salut coucou à mon amie Carole, qui nous écoute depuis Paris, quand même. Sachez que nos auditeurs peuvent aller loin, et peut-être qu'on en a même en dehors des frontières, c'est possible, ça ?
Bien sûr, ouais, on est sur Internet, donc je suis sûr qu'on nous écoute en Australie, aux États-Unis, au Venezuela, partout.
Au moins.
C'est sûr.
Au moins.
Bon. Bonjour Carole d'ailleurs.
Coucou Carole.
Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de tes activités qui accompagnent carrément en fait les cours de danse du conservatoire, mais pas que en fait.
Oui. Donc pour rappel, donc je m'appelle Frédéric Renoux, je suis pianiste essentiellement, même si je me définis plutôt comme musicien de manière générale, mais surtout pianiste. J'habite Pessac. Lors des deux premiers épisodes, on a parlé de mes activités, notamment dans les concerts Candlelight, où nous nous sommes rencontrés avec Lily et Aymeric, les spectacles Luminescence à la cathédrale. Et ce n'est pas tout ce que je fais. Mon boulot au quotidien, c'est d'accompagner les cours de danse, c'est-à-dire que je fais la musique en direct dans les studios de danse pour les élèves qui suivent leurs cours, notamment au Conservatoire de Bordeaux.
Ok, donc ça concerne qui exactement ? Parce qu'il y a un vaste public, c'est pas uniquement les élèves du conservatoire.
Alors en l'occurrence, ce boulot-là, si.
Ah si ?
Oui, ah, okay. Même si j'accompagne d'autres cours. Alors concernant le conservatoire de Bordeaux, notre public d'élèves, ce sont essentiellement des élèves mineurs, beaucoup. Donc ça va des débutants, donc on va du cycle 1 jusqu'au cycle de préparation à l'enseignement supérieur, donc des grands élèves qui se préparent aux écoles sup pour préparer une carrière professionnelle.
Faut pas de faille dans la musique, quoi, sinon...
Pardon ?
Faut pas de faille dans la musique, à ce niveau-là.
Non, vaut mieux pas. alors, l'accompagnement musical des cours de danse, il faut savoir, parce que c'est pas très connu du grand public, c'est quelque chose d'assez rare. On a cette fierté au Conservatoire de Bordeaux d'être un des rares établissements, je crois, en France, à proposer un accompagnement live par des vrais musiciens de la quasi-totalité des cours. Et j'insiste vraiment, on avait fait les calculs du pourcentage, mais on est au-dessus des 90% des heures de cours qui sont accompagnées par des musiciens. Et je salue d'ailleurs tous mes collègues qui nous écoutent.
Vous êtes nombreux ?
Nous sommes actuellement 5 au sein du département danse du CRR. Et parmi les 5, c'est des instruments variés. Non, je dis 5 en plus, attendez. Alors, nous avons Pascal Sévageuse, qui est également pianiste au Ballet de Bordeaux. Nous avons Guillaume Dupuis, qui est chanteur, guitariste, percussionniste. Nous avons William Rieublanc, contrebassiste, mais également chanteur, percussionniste. Adrien Bernège, clarinettiste, saxophoniste, percussionniste. Et enfin, Valentin Poulet, qui est batteur, mais également pianiste à ses heures perdues. Donc nous sommes bel et bien 6, si le compte est bon.
Ok, donc en fait, tu vas à ces cours et puis tu improvises c'est sur le vif que ça se passe ?
Exactement, c'est sur le vif, c'est beaucoup d'improvisation en ce qui me concerne. Il y a plusieurs façons d'accompagner un cours de danse. Donc pour info, moi je suis surtout fléché sur les cours de danse classiques. Mais au Conservatoire de Bordeaux, on donne aussi des cours de danse contemporaine, des cours de danse jazz, percussion, des cours de danse hip-hop. Moi, je suis fléché cours de danse classique. Et les pianistes ou les musiciens qui accompagnent les cours de danse classique en général, disons qu'il va y avoir deux stratégies. C'est soit improvisation, soit jouer des morceaux existants du répertoire, que ce soit du répertoire purement pianistique ou répertoire du ballet classique, parce que souvent les élèves travaillent des pièces du ballet. Et il existe tout un univers entre les deux, de nuancer, d'aller plus ou moins de l'un ou de l'autre. En ce moment, moi, je suis beaucoup sur le côté improvisation.
Ok, et quand tu fais de l'improvisation, c'est quel style ?
Oui, moi je suis friand d'un petit peu de tout. Ça peut être dans le style classique, mais ça, moi je fais aussi beaucoup tout ce qui va être des styles un petit peu plus latins. On va avoir un peu de bossa nova, on va un peu avoir... là en ce moment, nous avons une professeure de danse classique, Gabriela Gomez Abaitua, qui travaille avec nos grands élèves, ce qu'on appelle la Escuela Bolera. Donc pour simplifier, c'est danse classique espagnole. Et donc là, ça fait quelques mois que je suis dans une période où je joue beaucoup de musique, disons, hispanisante, avec tous ces codes esthétiques de la musique espagnole. Mais ça peut être aussi du jazz, ça peut être de la variété, de la musique de film. Comme on a beaucoup de jeunes élèves, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et à eux aussi, quand je récupère une chanson populaire et que je la remets au goût du jour pour l'inscrire dans le cours.
Ouais, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Aymeric. Et vous, dans vos voitures ou sous votre douche ou je ne sais où, hein, on écoute cette émission d'où on veut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me dirait bien d'entendre un petit peu de bossa nova, là, reprise par Frédéric Renaud à sa sauce.
Ouh là là. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai en stock ? Faut que je réfléchisse, tu me prends au dépourvu.
Et oui, parce que c'est du live. C'est du live que vous avez aujourd'hui.
C'était pas prévu, ça, hein, je précise pour nos auditeurs. Le programme, la pianistique n'était pas prévu à l'avance.
C'est Lily qui lance Frédéric.
C'est les challenges.
C'est les challenges. Frédéric Renaud sur Una Bossa Nova.
Chose comme ça.
Et du coup, pendant ce temps-là, les élèves reproduisent des mouvements en fait qu'ils ont appris enchaînés, ou alors ils inventent quelque chose.
Alors il y a les deux. Principalement dans les cours, c'est ce qui va se passer dans un cours de danse classique, c'est que la professeure va montrer une série de mouvements, un exercice. Et les élèves vont l'apprendre sur le moment. Et à ce moment-là, donc le job du musicien ou de la musicienne accompagnatrice, c'est d'ouvrir grand les yeux et les oreilles pour comprendre ce qui se passe en termes notamment de pulsation, donc à quelle vitesse on va jouer le morceau, quel est le caractère de l'exercice? Est-ce que c'est un exercice plutôt saillant, très vif, très précis, ou plutôt quelque chose de rond, de moelleux, de suspendu, continu, quelque chose de fort ou de... Tout ça, c'est ça. Ça, c'est mon job, d'être attentif à tous ces paramètres. Et à la fin, donc, quand ils vont commencer, souvent, ce qu'ils appellent, ils disent on va le marquer. Donc, marquer un exercice, c'est le faire, mais à moitié. C'est juste pour réviser les pas avant de le faire.
Ouais. Vite.
Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on me demande à ce moment-là, est-ce qu'on peut le marquer en musique? Comme ça, ça permet aussi de caler les mouvements sur la musique. Et si tout va bien, j'ai eu toutes les infos nécessaires. Et là, je propose donc une musique avec, généralement, on fait 4 temps ou 8 temps d'introduction, juste pour qu'ils entendent avant de se lancer pour de vrai.
Et oui, parce qu'en musique, c'est toujours 7, 8. C'est toujours, souvent, on a 8 ans en hein, musique.
Alors, surtout en danse classique.
Toujours,
surtout.
Ouais.
Danse classique,
même
c'est très carré.
Hein, moi, j'en sors là. J'en fais, c'est aussi 7, 8 tout le temps. Hein.
Bah, on est beaucoup dans notre musique occidentale, on a beaucoup de trucs très carrés, 4, 8. Et alors en danse contemporaine, moi ce que j'adore, c'est qu'on peut avoir aussi des 7, des 11, des 5, des 7 plus 6. On va... Donc ça, c'est fun aussi, il faut s'adapter. Ouais. Danse classique, c'est très carré. Donc sauf exception, généralement, s'il n'y a pas de surprise, c'est du 4 ou du 8. Et donc, ouais, on est 5, 6, 7,
et 8.
Et oui, exactement. Et donc là, si tout va bien, la musique correspond. Et ce qui est chouette quand on a un musicien en live dans le studio de danse, c'est que le professeur n'a pas besoin d'aller sur son lecteur MP3 ou sur son portable, sur YouTube, je ne sais quoi, sur sa playlist, pour choisir la musique, lancer, faire pause.
Oui, tu lances accélérer, une phrase, un regard et c'est parti.
Et donc on peut accélérer, ralentir s'il faut, on peut couper, reprendre. Et si jamais il y a le moindre doute, bah on pose la question. Enfin, moi je pose la question, tu peux me rechanter l'exercice, tu peux me redonner la puce, ok, tu le veux plus comme ça. Ok, combien de temps de cette portion de l'exercice, c'est combien de temps?
Musique sur mesure, en fait.
Exactement. Et ça, je le dis, hein, c'est grand luxe. Je crois que souvent nos élèves ne s'en rendent pas compte parce qu'ils baignent dedans au quotidien. Mais ça, c'est vraiment un grand confort que de pas avoir. Et au-delà d'avoir cette musique sur mesure, c'est aussi, on ne s'en rend pas compte, mais le professeur de danse, c'est un temps gagné à ne pas faire des allers-retours sur la chaîne IFI, etc. Et donc, c'est du temps que le professeur peut vraiment passer avec les élèves, à observer, à corriger, à enseigner. Et ça, c'est très précieux. Mais ça a un coût. Parce que oui, il y a un deuxième prof, en fait, dans le studio.
Faut qu'on te paye, bien sûr. Hein. Ouais. C'est pas gratuit, ça coûte pas 200 € comme le lecteur. Et encore, parfois, c'est moins cher que 200 € les lecteurs qu'on trouve dans les salles de danse. Mais bon. Et donc, tu as quel type de rapport justement avec ces profs de danse et les élèves? Ça se passe comment?
C'est-à-dire,
tu t'y vas, tu fais ton truc et puis t'enchaînes, ou tu as vraiment des discussions, tu vas boire des verres avec eux? Enfin, est-ce que tu as développé des contacts en fait avec eux? Et puis, autre question, depuis combien de temps tu fais ça? Parce que ça va un petit peu avec. C'est-à-dire qu'aussi, ça fait 10 ans.
Alors, ça fait pas 10 ans.
Il n'y a pas de contact.
Alors, je ne sais plus si ça fait 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Il faudra que je vérifie. Et au tout début, du coup, on va commencer par la petite anecdote. En fait, avant, il y a 10 ans, j'habitais encore en région parisienne. Et avec ma chérie, on est venu emménager en région bordelaise pour acheter notre propre chez nous. Les prix à Paris étaient déjà exorbitants, c'était pas possible. Et nous, on connaissait déjà un peu la région, donc région bordelaise, c'était chouette. Et ça me permettait à moi de reprendre mes études. Et à l'époque... moi, je me voyais faire carrière dans l'enseignement du piano. C'était vraiment professeur de piano en conservatoire. Et j'avais trouvé, j'avais passé le concours d'entrée, notamment au pôle...
PESD, là.
Au PESMD. Donc, le PESMD, c'est le pôle d'enseignement supérieur de musique et de danse, Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est plus communément appelé le pôle SUP.
Ouais.
Et donc, le pôle SUP, c'est l'établissement ici qui délivre notamment le diplôme d'État. Donc le diplôme d'État, c'est pour nous, dans notre secteur d'activité, le diplôme obligatoire si on veut enseigner au conservatoire. Je schématise, hein, mais grosso modo, c'est ça. Donc moi, à l'époque, je me voyais intégrer une équipe de professeurs de piano en conservatoire. Il fallait que je passe le fameux DE, diplôme d'État.
Que tu as validé, donc.
Et donc que j'ai validé. Sauf que, sortie d'études, donc j'obtiens mon DE... J'ai fait quelques remplacements de profs au Conservatoire de Bordeaux.
Et ça t'a plu ?
Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Moi, je me voyais dedans, c'était tout tracé, hein, c'était tout vu. Et le directeur de l'époque, le directeur du conservatoire, donc dans l'établissement dans lequel j'ai fait des remplacements, donc Monsieur Jean-Luc Portelli, que je salue par la même occasion, à l'époque, donc arrive la fin d'année, il me dit, écoute Fred, merci beaucoup pour les remplacements que tu as fait, ça s'est très très bien passé. Donc moi je me dis, waouh, super. Il me dit, mais ouais, le mais. Il me dit, mais malheureusement, on n'a pas de poste de prof de piano à pourvoir en ce moment. On a zéro heure, tout est pris. Et donc, je m'étais mis déjà à chercher dans d'autres établissements. Et là, il me dit, par contre, on a quelques heures d'accompagnement danse, on cherche quelqu'un. Il faut savoir vraiment qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Ça ne m'intéressait pas du tout.
C'est sûr que la danse, en plus, pour un homme, c'est pas forcément...
Oh non, 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 il faut arrêter avec ça.
C'est pas forcément le Graal au départ.
Non, 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 non. Non, mais c'est surtout que la danse, de manière générale, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Je connaissais pas. Et je l'ai écrit dans mon... Parce que j'ai ensuite, on y reviendra.
La grâce et tout ça.
On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais du coup, j'ai repris encore mes études pour passer un deuxième diplôme.
Spécialement pour ça ?
Spécialement pour l'accompagnement dansé, oui. Et dans mon rapport de recherche, je le dis en introduction que la seule connaissance que j'avais de l'accompagnement danse, c'est le film Billy Elliot.
Okay.
Et dans le film Billy Elliot, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cette scène où on voit ce pianiste là dans le studio de danse. Donc on a un vieux monsieur, je crois qu'il porte une casquette, il est de dos aux élèves, il ne voit pas du tout ce qui se passe, il est en train de griller sa clope. Et comment dire que ça ne me vendait pas du rêve. Mais voilà, Jean-Luc Portelli m'avait fait cette proposition et par respect pour cette proposition, j'y suis allé au département danse où j'ai rencontré Lucie Madonna, conseillère pédagogique. On a discuté un petit peu et puis là, il me fait « Bon, ben, tu vas accompagner ton premier cours de danse ?» C'était pas du tout prévu. J'ai accompagné mon premier cours de danse, j'y connaissais rien. Il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi pour m'aider un peu, me coacher. Et ben ça s'est super bien passé.
Dès la première fois.
En fait, je suis parti de l'idée que j'y connais rien, donc on va y aller au naturel. Je vais faire ce que je peux, je vais faire le max. Et mon réflexe a été juste de lever les yeux. Donc j'étais derrière le piano, je lève les yeux, je regarde ce qui se passe sur le tapis de danse, je regarde les danseurs, les élèves, qu'est-ce qui se passe. Et j'essaye de caler une musique qui va avec ce que je vois. Et là, je remercie mes quelques années de jazz que j'avais fait pour improviser. Et étrangement, mes quelques années de karaté aussi.
Ah ouais ?
Et ouais, parce que mine de rien, j'avais fait un petit peu de karaté quand j'étais ado. Et ben, ça m'a beaucoup aidé dans la lecture du mouvement, en fait, de comprendre... la gestuelle, les accents, l'énergie, la lecture du mouvement. Donc je remercie ça parce que en fait, moi je m'étais dit, sur le moment je m'étais dit bon j'ai fait un truc correct. Et en fait on m'a dit souvent, surtout les pianistes en classique, ils ont beaucoup leurs partitions, leurs morceaux.
Ouais. Ils ont du mal à se libérer de ça.
Bah, ils ont été formés comme ça.
Oui, oui, c'est logique.
On peut pas leur en vouloir. Et ils le font d'ailleurs, ils le font très bien. Hein, s'il y a un exercice, il y a besoin de tel type de morceaux. Alors là, je peux te dire qu'ils
c'est
ont... Ah ouais, mais dans leur, ils ont une culture musicale incroyable. Hein.
Bah, surtout au Conservatoire de Bordeaux. Hein.
Bon, partout.
Ouais, spécialement au conservatoire quand même, hein, je trouve. C'est quand même, on peut quand même reconnaître au conservatoire régional. Hein, je parle pas des conservatoires municipaux parce que c'est quand même différent.
Mais... Non, attends, tu parles de quoi là ? La culture.
La culture classique, justement, de pouvoir d'être un petit peu à la pointe des règles en fait d'une partition classique et de pouvoir en très peu de temps finalement déchiffrer. Et...
Honnêtement, je pense que tous les pianistes accompagnateur ou accompagnatrice en danse classique que j'ai rencontré, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, parce que j'ai pas mal fait ma formation à Paris, c'est des gens qui, peu importe où tu te trouves, c'est des gens qui ont une culture musicale énorme en musique classique.
On ne demande pas le conservatoire nécessairement pour faire ça ?
Pardon ?
On ne demande pas le conservatoire nécessairement avant ?
Pardon, j'ai pas compris ta question.
Quand on est justement accompagnateur pour la danse, comme tu en parlais, on n'est pas nécessairement formé au conservatoire régional ou tu
parles de Paris d'ailleurs. Pas forcément, hein, pas forcément.
Ça peut être une école de musique.
Ou même pas forcément conservatoire tout court. Si tu as le bagage technique, la culture musicale et surtout, surtout l'écoute. Mmh. Moi, je dirais ça, n'importe qui souhaitant s'intéresser à l'accompagnement chorégraphique, moi, je leur dis surtout, il faut avoir une écoute, le regard et pouvoir soutenir. Enfin, nous, accompagnateurs, on est là pour soutenir la danse. On n'est pas là pour imposer notre musique, là, et dire oh, bonjour, je suis là, je suis le chef d'orchestre, écoutez-moi. Non, on est là pour servir le geste. Et ça, bien sûr que quelqu'un qui a fait beaucoup d'années en conservatoire dans son instrument va avoir peut-être plus de facilité. Et quoique, tu vois, quelqu'un qui n'a jamais fait d'improvisation, par exemple, ça peut être très dur pour cette personne de s'adapter qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce que je peux jouer comme morceau Non, c'est hyper dur. Et souvent, les gens qui ont fait beaucoup d'improvisation ne sont pas forcément des gens qui ont fait du conservatoire.
Tout à fait, ouais.
Tu vois. Donc, non, c'est...
Et...
j'allais dire que c'est très... C'est une discipline à la croisée de beaucoup de choses. Mmh. Beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand je parlais de mes collègues au conservatoire, je veux dire, je prends le premier qui me vient en tête, Adrien, par exemple, Adrien Bernège, il est à la clarinette, puis il va s'asseoir à la batterie. Mmh. Donc, il va te jouer de la clarinette et en même temps de la batterie.
Ok. Il a quel âge ?
Je sais pas. Pourquoi ?
Non, parce que j'avais fait un atelier jazz à Bordeaux, là, pas très loin de la... de cours Victor Hugo, et il y avait un fameux Adrien qui était à la batterie, qui était exceptionnel, qui venait du conservatoire.
Ah, bah c'est peut-être lui.
Et qui était l'élève d'un type qui était malgache aussi, et qui est prof, ça te parle pas ?
Je sais pas si c'est
mais
lui.
Mais il était jeune, lui, hein, il était vraiment, il avait peut-être 22 ans, cette
année. Non, Adrien, il est un peu plus âgé que moi. Okay. Ouais. Mais enfin, tout ça pour dire qu'entre lui qui fait clarinette, batterie, William qui fait contrebasse, percussion corporelle, Guillaume qui chante beaucoup en même temps qu'il s'accompagne à la guitare, voilà, et Pascal qui donc est aussi pianiste au Ballet de Bordeaux, qui lui est très axé piano classique, il a une culture mais monumentale, toutes les musiques de ballet. Moi, j'en suis pas là, quoi. Il faut que j'écoute, que j'aille voir plein de choses.
Ouais.
Mais c'est...
Et Casse-Noisette, par exemple, tu pourrais nous le jouer ?
Oui, j'ai quelques airs de Casse-Noisette. Alors, si jamais j'ai ma collègue Emmanuelle, prof de danse classique, qui nous écoute, c'est le moment où elle va arrêter. Coucou, Emmanuelle.
Super, c'était vraiment Casse-Noisette, ça ?
La valse des fleurs.
Ouais, la valse, ouais, tout à fait. C'est, ok, bon. La valse des fleurs de Tchaïkovski ?
Tchaïkovski.
Ok.
Piotr Ilitch Tchaïkovski, oui.
Mais c'est magnifique, hein. On adore. Enfin, moi, j'adore.
Moi aussi.
Merci. Merci.
Et est-ce qu'on peut te demander une petite impro classique aussi ?
Une impro possible, classique ? Alors, dans quel style ? Est-ce que tu veux un adage ? Est-ce que tu veux une valse ? Est-ce que tu veux une marche ? Est-ce que tu veux une polka ?
Adage ?
Un adage ? Ok, totalement improvisé.
Ok, totalement improvisé. Après, tu peux bien sûr t'inspirer de tout ce qu'on connaît, mais de tout ce que tu connais.
Allez, je tente une impro.
Frédéric Renaud en impro.
Merci beaucoup. Super joli.
C'est un plaisir. Et donc oui. Là, par exemple, c'était carré. Tu vois, là, ça faisait un... On aurait pu dire que l'exercice, c'est ça allait avec les temps d'introduction. Et là, ils ont fait l'exercice à droite.
Mm-hmm. Et maintenant,
et là, il faudrait
gauche.
Le refaire à gauche. Voilà, la même chose en symétrie dans l'autre sens.
Et alors, ça donnerait quoi à gauche? On peut avoir la suite?
Il faut... Oh non.
Non.
Bon, aussi, allez, c'est parti.
Et merci encore, Frédéric Renou, pour la partie gauche de l'exercice. On n'a malheureusement pas les danseurs, mais on les imagine très bien.
Vous faites un spectacle à la fin de l'année ou c'est alors, juste pour de l'entraînement?
Ah non, 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 tout au long de l'année. Bon, à la fin de l'année, on a ce qu'on appelle les fenêtres chorégraphiques, qui sont les examens de nos élèves. Et là, ils se produisent sur scène. Et surtout, j'en profite au mois de mars. Les 19 et 20 mars, nous avons ce que nous appelons danse à vitesse, donc vitesse, la salle vitesse, que nous occupons pour le coup, vraiment un spectacle d'élèves. J'invite tout le monde à venez voir, c'est gratuit en plus. Et,
c'est à Bordeaux
La salle vitesse, oui, c'est à Bordeaux. La salle vitesse, c'est la grande salle... attenante au conservatoire, mais qui n'appartient pas au conservatoire, ça appartient au TNBA. Et je ne sais pas si vous visualisez le bâtiment, là,
si,
le gros
fait,
bunker
ouais.
En béton brutaliste qui donne sur les quais. Donc il y a le conservatoire, mais derrière,
avec le petit jardin là.
Exactement, ouais. Donc là, il y a la salle vitesse, qui est une très belle salle avec une grande scène, très confortable pour les spectateurs. Et donc les 19 et 20 mars, nous avons Danse à vitesse avec nos élèves qui se produisent sur scène, avec plein de très beaux projets. Venez nous voir.
Bon, je pense que vous avez retenu la 19 et 20 mars, salle vitesse. Mais moi, j'aime beaucoup. En fait, ça me fait penser. Enfin, je me dis, t'es le futur. Tu pourrais être le futur Pamar, Sofiane Pamar, finalement.
Pourquoi ?
Parce que je l'ai entendu improviser et je trouve que t'es même meilleur que... Enfin, c'est même plus agréable à écouter, quoi.
Bon, je veux pas faire de compétition publique avec les gens, s'il te plaît.
Non, après moi, c'est un avis tout à fait personnel, là, vraiment, complètement personnel. Voilà.
Après, si Sofiane Pamar s'intéresse à l'accompagnement chorégraphique, je l'invite qu'il vienne nous voir avec grand plaisir, voir comment ça se passe et... qui donne un petit essai, bien sûr, il est le bienvenu.
Je me demandais, vous jouez parfois les profs ensemble là, ça vous arrive de faire des duos, trios
Ah oui, ça c'est le lieu qui est très favorable à ça. Tout à l'heure, Lily, tu demandais si en dehors des cours, nous avions une sorte de vie entre profs. Alors, on a la chance au département danse, on se considère vraiment comme une famille. Hein, c'est... Et on a notre salle des profs attenante au studio juste à côté. Enfin, et ça nous arrive parfois que dans un cours, il n'y ait pas besoin du musicien. Pour raison X ou Y, typiquement, les élèves travaillent une pièce spécifique qui est sur une bande enregistrée, par exemple. Ou bien il y a une masterclass, il y a un professeur invité
qui
vient
dans les
cours.
Et du coup, vous avez du temps libre et vous rejoignez tous dans une... Super grande salle.
Oh, ça nous arrive de rejoindre juste un collègue qui est en train d'accompagner un autre cours. Okay. Et on fait coucou, je peux ? Eh ben oui. Ça nous est arrivé, je crois que le record, ça devait être 4 musiciens.
Ah ouais ?
4 musiciens, il y en avait 3 dispo, on est venu rejoindre un copain au grand bonheur.
Et vous arrivez à rester toujours au service de la danse. Vous n'avez pas envie de vous laisser partir dans les échappées.
Alors, je te cache pas que parfois l'énergie nous emporte, mais j'imagine. On essaye. On essaie d'être sage.
D'être raisonnable. Canaliser un tout petit peu. Et ça arrive que le prof vous fasse signe de vous arrêter.
Ça nous est arrivé, oui. mais de manière très, c'est très toujours très sympa, toujours très ambiant, très bon enfant et c'est juste qu'on s'amuse tellement quoi.
On
joue de la musique, c'est fun.
C'est clair. Et du coup, en fait, là, tu navigues entre classique, bossa nova, jazz, rock un petit peu parfois.
Parfois, rarement.
Ouais.
C'est rare, c'est rare que les exercices s'y prêtent, mais parfois, ouais, du blues. Souvent, c'est j'arrive même pas vraiment à mettre des étiquettes. Parfois, c'est une espèce d'hybride. Je navigue entre tout ça. J'improvise une musique qui sonne bien avec l'exercice en cours. Et parfois, je vais adapter un morceau d'un répertoire auquel on ne s'attend pas. Par exemple, moi, j'adore jouer des musiques de jeux vidéo.
Ah ouais, excellent.
Par exemple, en ce moment, je joue pas mal de musique de Zelda.
Ok, bah écoute, fais-toi plaisir.
C'est pourquoi j'ai dit ça. C'était un piège. Par exemple, un morceau qui marche bien pour les adages. Tiens.
On aimerait la suite, c'est magnifique, j'adore. Hein.
Ça vient de Majora's Mask, il me semble. Ouais, je crois que c'est de Majora's Mask. Et un morceau que je joue pas mal en ce moment aussi en fin de cours. Donc, il faut s'imaginer des grands sauts. Généralement, sur les grands sauts en fin de cours de danse classique, c'est beaucoup des valses, des grandes valses pour donner de l'élan et de suspension. Et donc, il y a un morceau que j'ai récupéré, pareil, de la série. Ça fait partie des derniers Zelda. Je vais le jouer.
Allez. Sur un point de suspension, c'est pas mal. Bravo. Tu comptes du coup rester combien de temps en fait là dans ces cours? Tu comptes
tant que ça me plaît. Moi ce que j'aime bien ici c'est l'équipe. L'équipe qui est fabuleuse, l'ambiance est très chouette. Mais après, qui sait hein, où la vie me mènera. Moi il y a quelques années j'envisageais pas du tout faire ça. Il y a 6 ans tu m'aurais demandé, mais alors là j'aurais été complètement à côté de la plaque. J'avais commencé par 5 heures qui sont devenues 11 heures, puis 16 heures, puis là maintenant un temps complet. J'accompagne maintenant aussi des cours donc au Pôle Sup, là où j'ai été étudiant, mais donc il y a des cours de danse là-bas aussi pour les futurs profs de danse, donc j'accompagne des cours de pédagogie aussi, j'accompagne des stages de danse, des masterclass. Ouais.
Et la façon de travailler, du coup, est vraiment, vraiment, vraiment foncièrement
en fait,
différente.
Ça va dépendre du professeur et de la professeure. C'est même pas forcément une question d'établissement. Mmh. C'est vraiment une question d'individu, de la personne que
d'accord,
tu as en face.
Ouais, ouais.
Il y a des manières de travailler. Mmh. Tout à l'heure, je parlais d'Emmanuel. En fait, Emmanuel, elle a beaucoup dansé sur Tchaïkovski, énormément. Mmh. Elle en a trop écouté. Et du coup, pendant ces cours, j'ai interdiction de jouer.
Elle en peut plus.
Elle en peut plus, ouais. Donc parfois, je lui fais juste un petit... Je fais 3 notes, 4 notes, juste pour qu'elle reconnaisse un tout petit peu. Elle se retourne, elle me fusille du regard. Ouais. Mais oui, ça dépend vraiment des professeurs. Il y en a qui ont besoin de la musique très, très tôt dans la démonstration de l'exercice. Il y en a qui préfèrent montrer l'exercice d'abord, puis ensuite aborder la musique. Ça dépend vraiment des individus. Et après, la différence beaucoup qui va se faire, c'est notamment pour les cours de pédagogie, notamment. Parce que là, oh, les étudiantes qui vont passer leur diplôme d'état de professeur de danse, elles, il y a beaucoup de temps passé à comment on transmet. Et donc là, c'est encore un autre enjeu. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, par exemple, avec un cours que les étudiantes vont donner à des jeunes enfants extérieurs. Et moi, j'accompagne ce cours, mais en réalité, c'est pas les enfants qu'on évalue. C'est pas
j'ai bien compris. Ouais.
C'est il y a un autre professeur qui.
C'est la pédagogie là qui.
Et ouais. Donc là, c'est encore un autre rapport parce que là, pareil, il faut déployer ses antennes, voir ce qui se passe. Et parfois, on peut, par exemple, avoir cette consigne, surtout au début, de dire on exécute strictement ce qui nous a été demandé et rien de plus. Parce que nous, musiciens, évidemment, nous sommes arrangeants, comme nous sommes très à l'écoute, on comprend très vite ce qui se passe et on peut, voilà, on peut, si on sent qu'il y a une fin, si on sent qu'il y a un arrêt, on le fait. Si on sent qu'il y a un besoin naturellement de rajouter, je ne sais pas moi, un peu plus de volume ou je ne sais quoi, eh bien, on va le faire. Mais ça peut, on peut nous demander, par exemple, vraiment, purement par visée pédagogique, de ne faire que ce qui nous a été demandé par les étudiantes. Et alors là, parfois, c'est très drôle aussi.
Ah ouais ?
Ah bah oui, si on exécute bêtement et méchamment ce qu'on nous demande sans en rajouter, sans aider, et bien là, on se rend compte en réalité de tous les paramètres qui existent et dont on n'a peut-être pas pris conscience.
Mais tu peux mettre quelqu'un dans la mouise, là, comme ça.
Ah mais complètement. Mais c'est tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt. Parce que ces étudiantes-là, un jour, elles vont passer leur examen devant un jury.
Ah oui, tant qu'elles s'entraînent, ça va. Mais si t'es en plein cœur de l'examen, à t'arrêter net, parce qu'elle t'a demandé alors qu'elle est encore en train de danser.
Non, c'est pas cool. Mais par contre, c'est un entraînement pour elles, pour réaliser qu'est-ce que tu dois prendre en compte quand tu formules ta demande au musicien.
Il faut qu'elle réfléchisse à la durée de sa danse, au caractère.
Exactement.
La vitesse.
Et quelque chose de très anodin. Hein. C'est pas inné, c'est pas naturel. Ça se travaille. Mais ce truc de, quand tu montres ton exercice, de le compter, de le chanter, de dire les pas en rythme.
Ah ouais.
Et ça, c'est du boulot.
J'imagine que pour
eux,
ça doit vraiment être un sacré boulot. Ouais.
Donc, et un. Et deux, tu pointes, tu c'est relèves, ça. tu attends, tu poses, prépares à gauche, et un.
J'adore.
Totalement improvisé, hein, mais dans l'idée,
c'est... On s'y croit, là, on y...
Mais il faut imaginer ça, mais en même temps, tu le fais. C'est-à-dire qu'avec ton corps, tu le montes, tu
et
surveilles tes élèves.
Et le pas de bourré.
Ouais, voilà, exactement. Et eh bien... Rien que ça, là, ce que je viens de faire, tu as l'énergie, tu as la pulsation, tu as juste, j'ai pas fait tout l'exercice en entier, mais en gros, là, tu as déjà énormément d'informations qui n'ont pas eu besoin d'être verbalisées comme, alors, la pulsation, ce sera ça, y aura tant de temps dans l'exercice, on va faire ça. Non, rien qu'en montrant avec l'accompagnement vocal, en le vocalisant, déjà, là, tu donnes énormément d'infos. Et ça, ça se travaille. Il y a des gens pour qui c'est plutôt facile. C'est quelque chose qui leur vient assez naturellement. Il y en a d'autres pour qui c'est vraiment un truc à bosser, quoi.
Mais puisqu'on parle de ça, parce que bon, moi, j'en ai fait de la danse dans plusieurs écoles et tout. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui crient ? Parce que moi, j'en ai pas mal des profs de danse qui crient, quoi, clairement. Hein.
Comment ça, qui crient ?
Ah, mais qui crient ? Elles crient, c'est-à-dire c'est 1 et 2 et 7 et 8 et on y va ! Comme si c'était un cours de gym, tu vois ? Ça, si... j'en ai eu plusieurs. Il y en a même une qui nous disait, je ne peux plus m'entendre. Enfin, elle le disait elle-même, elle le reconnaissait. J'ai une voix de casserole, elle nous disait. Crécelle, je crois qu'elle disait ça, j'ai une voix de crécelle. Alan, si tu nous entends, hein, c'était la meilleure prof au monde de danse. Vraiment, vraiment. Elle est partie à l'île de Ré, vraiment, c'était une prof géniale. Mais elle le disait elle-même. Et c'est vrai que je remarque ça. Les profs de danse ont souvent besoin de pousser la voix. Alors, parce qu'elles veulent dépasser la musique, tu vois.
Alors, eh ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais du coup te retourner la question. À ton avis, dans quelles circonstances est-ce qu'un professeur peut être amené à devoir hausser le volume de la voix?
Ma musique
trop
forte.
Crier, ça peut dire beaucoup de choses.
Ouais, non, quand je dis crier, c'est en tout cas, c'est parler plus fort que de raison, plus fort que nous. Là, nous, on parle normalement, ouais. On va dire.
Eh ben, tu peux très facilement être amené à ça. Bah, déjà, dès qu'il y a de la musique, de toute façon. Si tu veux te faire entendre, ça dépend de la taille du studio, mais si tu veux que l'élève à l'autre bout du studio entende ta consigne, tu as la musique, il suffit que je... Toi, imagine, là, je jouais la valse là, de Zelda. Là, et ben, si tu veux que la voix passe par-dessus, ben, tu es obligé de monter le volume. Mais ça va pas être un...
J'imagine que peut-être qu'au conservatoire, elles ne font pas ça et elles ne disent rien. Et les élèves doivent savoir. Parce que c'est vrai que dans les écoles comme ça...
Alors, encore une fois, je le répéterai jamais assez. Mmh. Pour tout le monde, ce n'est pas une question d'établissement. Ce n'est pas une question de conservatoire, école sup, petite école. C'est une question d'individu.
Mmh. Sans doute.
Comment travaille le professeur? Moi, j'ai connu, par exemple, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais ça m'avait marqué, une professeure de danse contemporaine à Paris qui ne disait quasiment rien pendant que les élèves montraient l'exercice. Mmh. Mais il y avait une raison. Il y avait une raison, c'est des élèves qui savaient qu'elle fonctionnait comme ça. Mmh. Et la raison, c'était que sur cette période-là, elle leur faisait beaucoup travailler la mémorisation, mémorisation. Et donc, elle ne disait rien, elle laissait juste la musique. Et à la fin de l'exercice, elle leur posait la question, alors, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas? Donc, il y avait un travail d'introspection, d'auto-analyse. En fait, il y a plein d'enjeux. Mmh. Et ça va dépendre et de la personne, et du contexte, et des motivations, tu vois. Et au contraire, tu peux être très, très, très présente à donner des consignes tout le temps, pour tout un tas d'autres raisons. Mais le fait de monter le volume, c'est juste pour se faire entendre, quoi.
Ouais, mais moi, je me dis, ça doit être crevant à la fin de la journée.
Oh oui. Je confie. Genre, je l'ai jamais fait, mais je peux l'imaginer. Hein. Moi, j'ai accompagné des journées de cours, je vois les profs qui enchaînent.
Ouais.
Et tu dis, waouh, ils se donnent. En tout cas, nous, à Bordeaux, ils se donnent. Hein. Je dis bravo à toute l'équipe, tous les collègues, là, mais...
Et tu joues sur quel instrument?
Alors, nous, à Bordeaux, on a la chance, dans les studios de danse, on a dans chaque studio, il y a un piano droit et une batterie et des percus. Ça va être des congas, des djembés, des choses comme ça, et plus la sono. Ouais, sono Mais du coup, on a un vrai piano. Le seul regret, c'est qu'on n'a pas de piano à queue, quart de queue. Ça, c'est mon petit regret. Mais ce n'est pas le même budget.
Non, c'est sûr.
Et ce n'est pas le même encombrement non plus. Ça prend de la place dans un studio.
Et quand tu viens, là, t'es venu avec du matériel, du coup, pour nous jouer en live, tu joues sur quoi, là?
Alors, là, le son que vous avez entendu tout à l'heure, ça vient de mon petit chouchou. Ça, c'est un clavier à moi. C'est une marque qui s'appelle GEM, G-E-M, pour General Music. Alors, c'est un petit... comment dire? C'est assez collector comme instrument, celui-là. C'est le GEM Promega 3. Il faut savoir que GEM, c'était une marque italienne qui n'existe plus. Elle n'existe pas. Ils ont fait faillite à la fin des années 2000, je crois, entre 2005 et 2010, je crois. Et GEM, c'était une marque qui faisait beaucoup d'orgues numériques. Et ils ont fait une série de claviers de scène, des claviers pro, touchés lourds, avec plein de sons. Il y a des sons de piano, de claviers type Rhodes, Wurlitzer, etc. Et sauf qu'ils se sont lancés là-dedans, avec des instruments vraiment très qualitatifs, mais aussi très chers à l'époque. Au moment où se démocratisaient des stations de travail, des claviers comme le Triton à l'époque, ça m'avait marqué. C'était des claviers qui, dans les mêmes gammes de prix, voire moins chers, avaient beaucoup plus de sons d'instruments et avaient beaucoup plus de possibilités de travail de ce son-là. Et notamment pour les studios de production, studios d'enregistrement, c'était beaucoup plus utile, beaucoup plus précieux. Et en termes de rapport qualité-prix, c'était plus intéressant. Donc, GEM, en faisant ça, ils ont fait de très beaux instruments. Le Promega 3, c'est pour moi le meilleur clavier de scène sur lequel j'ai joué, encore maintenant, face à Par exemple, les Nord, il y a les Nord Stage, les Nord Piano. Je suis toujours pas convaincu. Lui, pour moi, il est encore au-dessus.
Et Yamaha?
Yamaha, j'ai pas un souvenir très, très crispy.
C'est clair.
Ouais. Mais ça ne se fait plus, ces instruments. Mm. On trouve plus les pièces détachées non plus. Donc là, il faut savoir que là, là c'est un deuxième que j'ai racheté l'année dernière. Mais j'en avais un premier...
D'occasion alors, tu l'as acheté ?
Ouais, d'occasion, je suis allé le chercher en Bretagne, j'ai fait la route. Et le premier que j'avais, je l'ai encore à la maison, mais il est un peu en panne. Donc il a un processeur à l'intérieur, mais c'est un processeur propriétaire de Gem qui n'existe nulle part ailleurs, qui n'est pas réplicable, qui est en rade, et en fait j'ai la moitié des touches qui ne fonctionnent pas.
Ah mince.
Ouais, mais je le garde pour les pièces détachées, comme ça si mon deuxième tombe en rade, je pourrais le réparer.
Ce qu'il faut, ouais.
Mais ouais, le Gem Pro Mega 3, une superbe machine. Gem qui, après tout ça, a continué à exister en fabriquant, en étant sous-traitant de d'autres marques, comme Roland, je crois. Mmh. Donc, ils fabriquaient des pièces en Europe. Mais après, ça, ils ont plongé. Et malheureusement, on n'existe plus.
Ok. Et petite question, puisqu'on est dans l'univers de la danse, est-ce que ça t'a donné envie, justement, à toi, de faire des chorégraphies, de t'adonner un petit peu aussi à cet art ?
Alors moi, je me suis toujours dit que un jour ou l'autre, il faudra que je me mette à prendre quelques cours de danse, danse classique, danse contemporaine, ne serait-ce que des...
Petits pliés,
ouais, exact,
plié.
Demi-plié, grand plié, etc.
Deuxième position.
Il faut savoir que pendant 30 ans, là, j'ai traîné un petit problème à la cheville. Ouais. J'ai un problème à la cheville droite, mais je me suis fait opérer récemment. Et là, je suis en phase de rééducation. Je vois mon kiné depuis la semaine dernière.
Ok.
Donc,
y a même une émission qui a été annulée à cause de ça, je me souviens.
Et oui, exact, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En fait, elle a été annulée parce que je devais me faire réopérer. Ouais, j'ai eu 3 opérations au total.
Ouais, donc c'est sûr que là, la danse, c'est pas évident là, dans ces conditions.
Mais bientôt, je vais m'y mettre. Mais bien sûr que ça m'a donné envie. Et puis surtout, ce que j'aimerais beaucoup, c'est composer la musique d'une pièce entière, en fait, de
danse.
Ouais,
génial.
Ça, ce serait génial.
Mais c'est possible, ça. C'est largement dans tes cordes.
Oui,
ça m'étonne même
c'est...
que tu ne l'aies pas déjà fait.
Ah, c'est une question de connaître les bonnes personnes au bon moment.
Oui, alors ça, malheureusement. Enfin, malheureusement. En tout cas, c'est la vie, c'est le jeu de la vie.
Parce que ça coûte des sous. C'est pareil, hein, c'est trouver, connaître un ou une chorégraphe qui a envie de ma musique à moi. Il faut que ma musique lui plaise. Est-ce que c'est une musique que il ou elle voudrait faire enregistrer ? Moi, mon rêve, vraiment le truc, le summum du monde des bisounours, là, ce serait de pouvoir à chaque spectacle le jouer en live.
Bah, bien sûr. Non, je suis en train de l'imaginer. Je pense à une salle comme le Grand Parc, par exemple. Je ne sais pas si tu vois cette salle.
Non, je ne connais pas.
Ils font à la fois... Moi, j'ai déjà vu des spectacles un peu de danse, mais aussi de musique. Je pense que ce serait tout à fait envisageable là-bas, par exemple.
Oui, mais
et
quand
je pense
tu...
qu'il y en a d'autres, des endroits hein, où tu pourrais...
Non, mais ce n'est pas une question d'endroit. Mm. C'est une question de vraiment
parce que
de compagnie.
Parce que des clubs de danse... Non, mais des compagnies, il n'y a que ça à Bordeaux. Hein.
Ben oui, mais quand tu c'est
après, il faut les moyens. Peut-être qu'il faut qu'ils puissent te payer.
Ben, je sais pas quel spectacle de danse tu es allé voir dernièrement, mais en dehors de...
Au Pingalan, il y en a aussi chaque année. Hein.
Et oui, mais au Pingalan, est-ce qu'il y a des musiciens en live ?
Non,
et
pas non. du tout, justement. Non, mais c'est pour ça. Ce serait bien que ça existe.
Et oui, mais c'est toujours pareil.
Est-ce que t'es allé voir Vanessa Feuillette ?
C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je sais pas si Vanessa Feuillette, elle veut se lancer dans la chorégraphie.
Mais tu sais qu'elle a des pianos dans ses salles. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils étaient là, parce que personne ne les utilisait. Mais...
Bon, si, je crois qu'il y a des pianistes qui viennent accompagner les masterclass.
Ouais, enfin, c'est pas systématique. Hein.
Mais après, elle fait...
Oui, de temps en temps,
j'ai envie de dire,
elle fait
ce qu'elle veut dans son école, Vanessa.
Ah oui,
mais
complètement, ouais.
Là, si on parle vraiment en termes de chorégraphie
mais tu vois,
là, pour des spectacles...
J'imagine que ça pourrait être pas mal pour elle, qui a quand même des sports-études, je crois. Enfin, c'est quand même un certain niveau, on va dire, pour une partie des cours.
Bah, je te laisserai lui glisser le message, mais c'est toujours pareil, c'est une question de budget.
Moi, je ne suis plus à cette école, là, hein, maintenant.
Mais pour revenir vraiment sur le sujet des chorégraphes, là, t'imagines, c'est-à-dire que tu passes commande d'une composition musicale et qu'en plus, au-delà de la commande de la composition, c'est-à-dire que tu embauches moi, musicien, à jouer... C'est-à-dire qu'il faut envisager que ça, tu partes en tournée, je sais pas où. C'est une logistique assez importante. Mais déjà, composer une musique enregistrée pour une pièce de danse pour une chorégraphe qui ferait tourner ça avec sa compagnie, ça, j'adorerais.
Et ben justement, qu'est-ce que tu jouerais si jamais tu devais
Ah non,
inventer.
Non. Bah non, bah si je peux inventer tout et n'importe quoi. Il faudrait un cahier des
Alors,
charges.
Alors, on va te donner un cahier des charges. Émeric, tu veux donner quelques éléments?
Je sais pas.
Alors,
c'est
si,
compliqué.
Moi, je sais ce que veut Émeric. Émeric, il aime quand ça bouge, quand ça pète, quand ça explose. Émeric, si c'est trop calme, il supporte pas.
J'adore les trucs, blues, jazz, mais boogie, c'est encore un peu trop, un truc plus.
Explosif. Voilà, quelque chose d'explosif.
Après, je me dis quand même, là, on arrive à la fin de l'émission, peut-être on peut lui laisser choisir son morceau de fin.
Ah oui, bon, bah, si tu veux pas nous faire quelque chose d'explosif, c'est pas grave.
Ce qu'on aimerait bien terminer sur un de tes morceaux, donc je sais pas,
un
de ceux que tu joues, enfin ce que tu veux d'ailleurs, en fait, ce que tu aimerais faire écouter à nos auditeurs pour terminer l'émission.
Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais vous jouer pour terminer? Il reste.
Ouais, il reste, c'est pour ça, on s'approche de la fin.
Moins de 4 minutes.
Ouh là là.
Et avant, donc pendant que tu réfléchis, tu peux nous répondre, ça va être compliqué, du coup, il faut faire deux trucs en même temps. Juste redonner les dates où on peut te voir bientôt, dans Luminescence, je crois.
Alors, Luminescence, vous pouvez encore me voir en première partie des spectacles, donc ce mercredi, le 10, le mercredi 17 et le samedi 20 décembre. Le samedi 20 décembre, ce sera ma dernière session à Luminescence à Bordeaux pour la première partie. Donc je rappelle qu'il faut venir dès l'ouverture des portes, parce que moi je ne joue pas à l'horaire du spectacle. L'horaire qui est indiqué sur la billetterie, c'est l'horaire du début de la projection du spectacle Son et Lumière. Moi je joue la première partie, donc il faut venir dès l'ouverture des portes. Donc le 10, 17 et 20. Et pour les Candlelight à Bordeaux... Oh, je ne me souviens plus des dates de tête. Je crois que je rejoue en janvier. Là, j'ai des dates à Paris. Les 11 et 13, je joue à Paris. Alors, le 11,
c'est ça Tour Eiffel.
Alors, le 11, c'est à l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles. Et le 13, Tour Eiffel. Premier étage de la Tour Eiffel, le 13. Ça va être chouette. Mais je vais poster ça sur Instagram. Abonnez-vous. Abonnez-vous à mon Instagram. Frédéric Renoux, musique. Je mettrai les prochaines dates de concert. Et pour
et terminer...
gagne
du temps, là, il reste plus que 2 minutes et quelques.
Mais non, je ne gagne pas du temps, je perds du temps, justement.
Et alors, attends, du coup, on finit, on reprendra pas l'antenne, on dit au revoir à tout le monde.
Bah oui, on fait plein de bisous. Portez-vous bien dans ce beau mois de décembre, 17 degrés, là, on a tellement de chance ici à Bordeaux.
Ouais, et du coup, je fais un peu de pub aussi pour l'entre-dub volume 8 qui se jouera le samedi 24 janvier du dub avec Sofar Channel et Tosh Backyard. Et on finit avec Frédéric Renoux qui sera bientôt en concert 10, 17, 20.
Yes, encore merci pour l'invitation et je vous dis à la prochaine.
Avec grand plaisir pour revenir nous faire des lives et tout ça, c'était parfait. Et donc, peut-être dans 15 jours, je ne sais pas, ce sera la première semaine de vacances, ce sera une surprise si on est là ou pas, c'est pas encore calé. Une bise à tous. Ciao, ciao.
Ciao.